Bonjour Mgr Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Avec vous aujourd'hui, nous allons revenir sur une lettre que vous avez publiée avec vos confrères évêques, tous les évêques de France, réunis en assemblée à Lourdes en mars dernier. C'est une lettre qui aborde la question des abus dans l'Église. Avant de décortiquer cette lettre avec vous aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui a été fait jusqu'à présent dans l'Église et dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, contre les abus. Vous n'avez pas attendu l'Assemblée plénière de mars 2021 pour vous mobiliser, pour agir contre les abus dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes sur cette question-là?
Alors, vous avez raison de dire que ça fait 20 ans qu'on a pris conscience de ces abus. D'ailleurs, dans la lettre des évêques, on le dit au départ, hein, il y a une sorte de prise de conscience que ça existait et que ça n'existait pas, que ce n'était pas simplement des cas très, très isolés, quoi. Donc, il a fallu en prendre conscience, consentir, disons, à vraiment voir que c'était un vrai problème, dans une vraie difficulté pour l'Église. Et puis, on a avancé. Peut-être que certains trouveront qu'on a été très lent, mais on n'avait pas de modèle tellement pour avancer. Et la première chose qui a été très importante pour nous, c'est de comprendre qu'il fallait coopérer avec la justice. Parce que on a traité, et ça nous a été reproché, et je pense que c'était un vrai reproche, c'est qu'on a traité cela...
En interne,
c'est-à-dire en pensant que c'était juste un péché. Et donc, ça se règle sur le plan spirituel par la confession et puis une admonestation de l'évêque, sans comprendre que ça touchait le corps, le corps social, quoi. Et donc, c'était un crime ou un délit, hein, et que ça relevait aussi du droit pénal, de la justice civile. Et là, il a fallu déjà un petit peu de temps pour que tout le monde accepte ça et de dire bon, il y a tout un tas de questions, de difficultés qu'on a dans l'Église, qu'on traite, comme vous le dites, en interne, parce que ça ne concerne pas l'État. Hein, notre séparation de l'Église et de l'État, elle fait que on a un droit canon, un droit canonique, un droit de l'Église, qui fait que, par exemple, que si jamais je nomme un curé dans un endroit et qui ne veut pas y aller, ce n'est pas l'État qui est un recours pour cela. Hein. Il faut que je me débrouille avec le curé en question. Bon. Donc, on a pris l'habitude de résoudre nos affaires entre nous parce que c'est ce qu'on fait en général. Mais là, il fallait prendre conscience que les actes posés, les abus étaient graves et qui touchait la société et que ça relevait du droit civil.
Et ce sont des victimes elles-mêmes qui ont permis d'ouvrir les yeux là-dessus en ayant le courage de prendre parole, de parler, de poser des mots sur ce qu'elles avaient subi.
Oui, alors ça a été aussi une étape. Hein. Il y a eu cette étape de comprendre qu'il fallait travailler avec la justice civile, mais il y a eu aussi cette étape qui est arrivée à peu près vers 2015-2016, de comprendre comment les victimes avaient des choses à dire, d'abord à dire le traumatisme profond qu'avait été un abus, ce que nous n'avions pas réalisé, parce que on ne pouvait pas comprendre à quel point, vous voyez, cet acte était grave. Et puis avait blessé la personne dans sa profondeur. Et donc, il a fallu prendre le temps d'écouter les victimes. Parce qu'au fond, vous voyez, quand un clerc, c'est-à-dire un prêtre, commet un tel acte, il est accusé. Du coup, on travaille avec la justice. Donc, on le met entre les mains de la justice, si je puis dire. Et puis, on s'arrêtait un petit peu là, en se disant, les victimes, c'est vraiment dommage. Mais, et tout d'un coup, on a pris conscience que les victimes avaient des choses à dire.
Et que vous ne pouviez pas comprendre l'ampleur du problème sans elles.
Sans elles, exactement. Et on ne pouvait pas non plus penser qu'on pourrait traiter le problème, c'est-à-dire, par exemple, accompagner les victimes sans écouter les besoins des victimes, sans écouter ce qu'elles avaient à dire. Ça ne veut pas dire qu'elles disent toutes la même chose. Moi, j'ai l'impression quand même que la réaction des victimes est très, très différente. Il y a celles qui veulent parler, il y a celles qui ne veulent pas du tout nous parler, qui ne veulent plus avoir affaire à nous. Il y a celles qui se sont relevées et qui ne veulent pas revenir sur le passé. Vous voyez, je peux comprendre cela, mais On a eu besoin d'entendre ces victimes.
D'où la nécessité de créer, et ça a été fait déjà il y a 5 ou 6 ans dans notre diocèse, une cellule d'écoute, précisément pour ça, justement, pour permettre une libération de la parole plus facilement.
Oui, alors là aussi, ça a été une étape à franchir, c'était de dire, parce qu'au départ, c'était l'évêque qui traitait ça avec le prêtre. Bon, ensuite, tout d'un coup, on a dit, mais il y a aussi le procureur de la République, et puis il y a les enquêteurs, hein, par exemple la gendarmerie ou la police. Bon. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait parler avec les victimes. Mais l'interlocuteur au niveau de l'Église, on s'est aperçu aussi que ça ne pouvait pas être le seul évêque. Et donc, parce que ces questions étaient assez confidentielles, c'était des questions délicates, donc on avait pris un peu l'habitude que l'évêque traite ça en direct. Bon. Et d'où d'un coup, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on ait une équipe autour de nous. Alors moi, j'ai nommé le père François Bustillo, hein, religieux franciscain, pour m'aider. Mais on a, comme dans chaque diocèse, mis en place une cellule d'écoute qui sont formées de gens assez différents. Alors chez nous, il y a un ancien magistrat, il y a des médecins, il y a une conseillère conjugale. Bon, donc on a des gens qui ont des capacités.
Et ça permet à la victime de se sentir peut-être plus en confiance pour dire les choses.
Oui, parce que tout simplement, parler à l'évêque, ça n'est pas du tout évident. Par exemple, il y a des victimes qui ne veulent plus parler à un prêtre ou disons à un clerc, donc à un évêque encore moins. Donc parler parfois à des fidèles laïcs, en plus au titre de leurs compétences professionnelles. D'ailleurs, il y a aussi ces fidèles laïcs, parfois, savent beaucoup mieux écouter que nous pouvons le faire, parce qu'il y a, par exemple, un médecin, il a déjà entendu des cas comme ça, et donc il sait aussi les questions à poser ou les questions à ne pas poser. Bon. Donc là, on a eu besoin vraiment d'être plusieurs, d'être aidés, d'ouvrir ce champ, alors qu'au départ, il était vraiment très, très confiné, hein, sans jeu de mots, avec la situation actuelle. Mais enfin, alors qu'on traitait ça entre l'évêque et le prêtre, tout d'un coup, ça s'est ouvert.
Et ça permet aussi à l'Église, y compris aux laïcs, de comprendre aussi le problème et d'ouvrir aussi les yeux. Il n'y a pas que les prêtres et les évêques qui ont à ouvrir les yeux sur ces affaires.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ça a été un point, ça a été encore une étape. Vous voyez, il y a eu plusieurs étapes.
Ouais.
Il y a eu plusieurs étapes qui ont été des étapes de prise de conscience lente, parce qu'on n'avait pas, d'expérience. Hein. Et une des étapes, ça a été aussi de passer de cette situation doit être réglée par l'évêque, parce que c'est des situations qui sont extrêmement isolées, c'est des cas isolés, et nous, ça ne nous concerne pas, à ça touche l'Église aussi, parce que malheureusement, les abus, il y en a qui sont commis par des clercs, mais il y en a qui sont aussi commis par des fidèles laïcs ou tout simplement par des gens. Alors c'est là où s'ouvre aussi tout le champ. Vous voyez par exemple des questions d'abus à l'intérieur des familles, des questions d'abus à l'intérieur des clubs de sport, etc. C'est-à-dire que cette espèce de déni dans lequel nous avons été au départ, eh bien en fait on s'est aperçu que c'était aussi un déni de la part des de tout à chacun. Moi je vois qu'au départ lorsqu'on a voulu, si vous voulez, mettre en œuvre une charte de protection pour les mineurs et les personnes isolées, les personnes fragiles. Eh bien, plusieurs personnes, des catéchistes par exemple, nous ont dit « mais ça ne nous concerne pas, il n'y a pas de ça chez nous ». Or, donc il y avait aussi une sorte de refus de voir cette affaire arriver et... un refus de dire « oui, je peux être concerné » ou « mon groupe peut être concerné » ou « ma paroisse peut être concernée ». Et donc, alors maintenant, peu à peu, je vois que ça commence, si vous voulez, à se répandre, l'idée que nous sommes tous responsables de la protection des mineurs, de la protection des personnes fragiles. Et la charte que nous avons rédigée et divulguée dans le diocèse, elle concerne évidemment les catéchistes, les animateurs de jeunes ados, donc les mouvements de jeunes aussi, mais également les services de santé, parce que les personnes fragiles...
Elles sont vulnérables.
Vulnérables, elles sont dans les services de santé. Et puis également tout ce qui tourne autour des mouvements caritatifs, hein, c'est-à-dire l'aide aux personnes fragiles, là, sont, peuvent être touchés aussi.
Donc cette charte, pour préciser un petit peu les choses, c'est une charte qui doit être signée par toute personne qui s'engage dans un de ces lieux que vous venez de nommer, voilà, qui signe en disant ben, « je m'engage à être irréprochable », en
voilà,
quelque sorte.
Je m'engage à protéger les personnes qui me sont confiées, à être infiniment respectueuses.
Ouais.
Et puis, cette charte, donc, elle rappelle la loi. Alors, là aussi, c'est très important, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout cela a permis de libérer la parole.
Oui.
Donc, on a pu en parler. Et la charte, elle met des mots sur des réalités que nous avons du mal à nommer.
Mmh.
Et donc, lorsqu'on distribue la charte, c'est aussi une manière d'en parler avec les personnes qui sont autour de la table. Je me rappelle, par exemple, d'une réunion avec les chefs d'établissements catholiques, enfin des écoles catholiques, hein, où la charte a permis de commencer à parler sur le sujet. Bon, l'enseignement catholique a, si vous voulez, ses propres outils, hein,
oui.
Mais j'ai voulu que la charte soit distribuée là aussi, pour dire, voilà, qu'est-ce que nous faisons de ce problème ensemble, et comment est-ce que nous nous sentons ensemble responsables des mineurs qui sont dans nos écoles, qui sont dans nos groupes, qui sont dans nos aumôneries.
Alors, on voit bien toutes les étapes entre la cellule d'écoute, cette charte, la nomination d'un délégué diocésain, et puis ce travail que vous avez, cette collaboration avec la justice, hein, qui s'est mise en place. Tout ça, ce sont des étapes. Il y a aussi une étape importante au cours des dernières années, c'est la création de la CIAS, de cette commission indépendante. Ça, c'est important parce que ça a marqué quand même. Il y a un avant et un après CIAS, cette commission indépendante qui a été chargée, missionnée pour enquêter, en fait, sur ce qui s'était passé dans l'Église.
Oui, c'est ça. Donc, CIAS, c'est Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Hein, c'est l'acronyme. Et donc, on a demandé à cette commission, donc les évêques ont demandé à une commission indépendante d'enquêter pour savoir, au fond, combien de personnes avaient été touchées, c'est-à-dire combien de personnes avaient abusé, et puis combien de victimes il y a. Bon. Et donc, il y a eu une vaste enquête qui remonte à 1950. Donc là, on est, vous voyez, sur 71 ans, hein, 1950-2021. Et on a donc donné à cette commission qui nous a interrogés par mail. Hein, on a dit, chaque diocèse a dû, disons, regarder dans ses archives et dire combien il y avait, disons, d'affaires, hein, d'abus commis par des clercs. Elle ne s'est pas intéressée aux laïcs qui ont pu abuser. Donc, on a répondu à la question sur les prêtres et éventuellement les diacres, mais c'est surtout sur les prêtres.
Voilà. Dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, quels sont les éléments qu'on a fourni à la CIAS pour cette enquête qui a été lancée en juin 2019.
Donc, moi, j'ai donné à la CIAS le chiffre de 9 victimes et puis de 5 auteurs d'abus, dont 3 sont déjà morts. Un est encore vivant mais n'exerce plus de ministère dans le diocèse. Et puis, un est étranger. Hein, parce qu'à Tarbes-et-Lourdes, il y a pu y avoir aussi... Il y a eu un cas comme ça d'abus d'un prêtre de passage. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est les chiffres pour notre diocèse.
Tous les diocèses ont fourni à la CIAS ces éléments après avoir fouillé dans leurs archives, hein, depuis donc, 1950. Et à partir de cette enquête-là, qu'est-ce que fait ou va faire la CIAS? Quelle est la suite, alors, de cette enquête? Maintenant qu'on a trouvé les victimes et qu'on peut dire combien il y en a eu et à quel moment, qu'est-ce qui se passe après?
Ben, c'est-à-dire que la CIAS a recueilli ces éléments. Elle a été aussi dans certains diocèses pour voir dans les archives, dans des diocèses importants, pour voir les archives, pour les consulter aussi. Hein. Et puis, donc, elle va livrer ses conclusions. Donc, moi, je ne peux pas savoir quelles seront les conclusions de la CIAS.
Ce sera à l'automne.
Ça sera à l'automne, puisque précisément, ce sont ses conclusions et que la commission est indépendante. Elle donnera des chiffres. Hein. Donc, elle a fait un appel à témoins aussi. Parce que, si vous voulez, on n'est pas forcément au courant de tout. Moi, j'ai bien vu que dans les dernières années, quand on en parlait, quand on en parlait dans les médias, il y avait parfois des gens qui disaient, ben voilà, moi, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai été abusé il y a 30 ans, il y a 40 ans. Bon, donc ça c'est pas... et donc, ça veut dire, la CIAS s'est dit, ben, on va faire un appel à témoins. Donc, il y a eu des petites affichettes qui ont été divulguées dans les églises, dans les communautés, là où on pouvait, en disant, si vous avez, s'il y a eu un abus, merci de nous contacter. Et donc, et puis là, les cellules d'écoute étaient toutes... toute ouverte, c'est-à-dire que sur le site de tous les diocèses, on peut trouver très vite le numéro de téléphone d'une cellule d'écoute. Et donc...
Oui, ça, c'est nouveau aussi. Ça, il a fallu que l'Église apprenne à communiquer vraiment sur ces questions-là.
Sur ces questions, exactement.
Parce que c'était l'inconnu. Enfin, c'était encore une fois l'évêque qui réglait ça. Donc,
c'est-à-dire que ça remontait, mais on n'allait pas... c'était pas une sorte de dossier un peu ouvert avec un numéro. Bon, là, maintenant, il y a des numéros partout. Donc, je crois que là, maintenant, les gens sont assez au courant. Et puis, donc, il y a des gens qui ont été parlés à la CIAS. Donc, la CIAS va donner des chiffres, mais la CIAS va dire aussi peut-être un certain nombre de choses que cette commission a entendues sur ces crimes, sur ces délits, sur ces abus. Bon. Je pense qu'ils vont aussi faire un certain nombre de recommandations en disant voilà ce qu'il faudrait faire peut-être pour rendre l'Église plus sûre.
Alors les évêques de France n'attendent pas les recommandations de la CIAS pour agir, puisque dans la lettre que vous avez publiée avec tous vos confrères évêques le 25 mars dernier, il y a un certain nombre de décisions. Alors qui va engager toute cette série de décisions va engager évidemment l'Église de France, mais chaque évêque dans son diocèse, et j'allais dire chaque prêtre et puis chaque catholique va être engagé. Si vous voulez bien, on va regarder quelles sont ces décisions. Qu'est-ce que vous dites dans cette lettre ? Alors, on a bien compris que si cette lettre est publiée aujourd'hui, c'est parce qu'il a fallu du temps et qu'il s'est passé des choses pour que vous en arriviez à ces décisions. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous avez décidé avec vos confrères évêques pour lutter contre ces abus ?
Alors d'abord, c'est sûr que ces décisions, elles ont été prises parce qu'on a fait un chemin ensemble. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, à chaque assemblée plénière, nous en parlons. Et puis il y a eu des petites commissions qui ont été créées pour faire, si vous voulez, évoluer la réflexion. Mmh. Parce que ce n'est pas parce qu'on est face à ces problèmes qu'on a des solutions immédiates. Donc il y a des solutions qui ne mûrissent que par un discernement et donc des échanges. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure de parler aux victimes. Or, les victimes ne demandent pas exactement la même chose. Donc vous voyez, discerner pour savoir ce que nous devons faire alors que les personnes concernées ne nous demandent pas la même chose, ça demande, vous voyez, de la maturation. Ça demande de voir aussi ce qui s'est fait dans d'autres pays.
Oui.
On est en contact évidemment avec le Saint-Siège qui traite, qui a aussi son propre organe pour traiter de ces questions. Et voilà. En tout cas, la première chose, c'est que les évêques disent clairement dans leur lettre que nous disons dans notre lettre que notre Église n'a pas été une maison sûre. Hein, donc, on reconnaît déjà qu'il y a eu cette problématique des abus sexuels. Et qu'on a mis du temps à comprendre aussi le traumatisme vécu par les victimes.
Et vous demandez pardon pour ça ?
Oui, alors la question du pardon, si vous voulez... Oui, on demande pardon. La question du pardon, je vais vous dire pourquoi je mets un tout petit bémol, c'est parce que il y a des victimes qui n'ont pas envie qu'on leur demande pardon aussi vite, comme si on demandait pardon et puis
comme si ça allait tout effacer.
Comme si on allait tourner la page et puis s'occuper d'elle. Donc la question du pardon, par exemple, vous voyez, elle arrive. Voilà une question importante. C'est à quel moment elle arrive ? À quel moment quelqu'un est capable de recevoir une demande de pardon ? Parce que la demande de pardon, ça veut dire oui, au fond. En gros, je vous absous de ce que vous avez fait et maintenant nous repartons et nous faisons autre chose. Or, tout le monde le sait, les auditeurs le savent, quand quelqu'un nous a fait du mal, si cette personne dit « écoute, je te demande pardon », parfois on n'est pas prêt encore parce qu'on aimerait être sûr que ça n'est pas une échappatoire, une manière de dire, bon, bah maintenant, passons à autre chose. Parce que la personne elle-même, elle n'est pas passée à autre chose.
Oui, parce que le traumatisme, il est ancré. Il est profond, ancré. D'ailleurs, voilà. Vous le dites bien, le traumatisme, il est à vie dans la plupart des cas. C'est, oui. Toute sa vie, la personne sera marquée par le traumatisme.
Voilà. Et donc, moi, j'ai connu des victimes, je connais des victimes qui n'ont pas envie qu'on arrête le débat maintenant, qu'on arrête la conversation maintenant, qu'on arrête le dialogue maintenant, parce qu'elles ont des choses à dire, parce qu'il y a une souffrance qui doit remonter. Et la demande de pardon, elle pourrait arriver un petit peu vite,
oui.
Alors que la personne est encore, elle a encore peut-être des choses à dire. Voilà.
Oui, le pardon n'arrête pas la discussion et l'avancée dans le... Voilà,
alors voilà, donc nous, évidemment, c'est important qu'on demande pardon au nom de l'Église pour ceux dont nous sommes responsables. Mais vous voyez que le pardon ne met pas un terme, vous voyez, à l'échange qu'il peut y avoir.
Et à la guérison, oui. Alors, les décisions, au fond, les décisions que vous présentez, elles sont beaucoup basées sur la relation avec les victimes et ce travail, encore une fois, d'échange, de discussion et aussi de formation et d'accompagnement. Bien sûr des victimes, mais aussi des coupables, des auteurs de ces actes.
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a eu un volet hein, en disant, mais comment est-ce qu'on accompagne des victimes d'un tel traumatisme hein. Comme je viens de vous le dire, hein, il ne suffit pas de dire, on s'excuse, on est désolé, et puis on passe à autre chose. C'est-à-dire, comment est-ce que les victimes sont entendues? Et donc, la première décision, c'est de continuer à écouter, à accompagner les personnes victimes. Bon, il y a aussi d'améliorer la formation de ceux qui vont être, par exemple, avec les jeunes ou avec les personnes fragiles. Alors, donc, ce n'est pas simplement la question de la charte, mais c'est peut-être la formation initiale, par exemple, dans les séminaires. Qu'est-ce qui se passe pour que, eh bien, on prenne bien conscience que les enfants, les jeunes sont infiniment respectables, qu'il y a des gestes qu'on ne pose pas, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Oui. Bon, voilà.
Et puis, avec, au fond de ça... Hein, la question qui avait été soulevée aussi par le pape il y a quelques années en disant il y a les abus sexuels, mais il y a aussi la question des abus d'autorité, des abus de conscience. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une manière, sans toucher si vous, au corps de la personne... Eh bien,
qui peuvent abîmer quand même considérablement le...
Oui, comme si on devenait propriétaire de ses décisions, de sa liberté, de son âme. Donc il y a une manière d'entrer en relation avec la personne et... Le fait qu'on est mandaté par le Seigneur, si je puis dire, ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Et puis, alors ensuite, on a proposé de créer un lieu national de mémoire pour les victimes.
Qui serait pour toute la France.
Pour toute la France, un lieu national. C'est-à-dire qu'il nous est apparu que, dans la suite de ce que je vous disais tout à l'heure sur le pardon... comment est-ce qu'on peut continuer à faire mémoire de ces traumatismes pour dire aux victimes, nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Et parce qu'il peut y avoir des sujets, si vous voulez, qui sont apparemment traités. Ah bon, bah, on s'est rendu compte, on fait ce qu'il faut, et puis ensuite on oublie. Or, on se rend compte que...
Pour pas que ça recommence, il ne faut pas oublier.
Ben, regardez, moi je prends une comparaison avec tous les monuments aux morts de la guerre 14 qui sont dans nos villages.
Oui.
Voilà des lieux de mémoire qui sont incroyablement, si vous voulez, porteurs de leçons. Hein, parce que quand on voit les noms des personnes dans nos villages qui sont morts, on se dit, mais on n'a plus envie de la guerre. Quoi. Mais quel drame, quel... quelle boucherie cette guerre. Moi, je me souviens que quand j'étais curé dans la région parisienne et que j'allais le 11 novembre et qu'on disait le nom de parfois 200 personnes dans ce qui était encore des villages autour de Paris, hein, on se disait il faut résoudre nos problèmes autrement qu'en creusant des tranchées. Bon, Et vous voyez, les, par exemple, le lieu de mémoire pour les victimes du terrorisme auquel l'État est en train de penser. Bon. Donc on a pris aussi, on prend aussi exemple sur ce qui se fait dans la société oui. civile pour dire, attention, là, il y a eu quelque chose qui a blessé profondément des personnes, des individus, et puis aussi l'Église, hein, comme corps. Mm-hmm. Et du coup, gardons mémoire de cela pour ne pas oublier. Et voilà. Et donc, on a l'idée de faire un lieu de mémoire, oui.
Alors, on ne sait pas encore où.
Bon, peut-être que ça sera à Lourdes, parce que Lourdes...
C'est un lieu national.
C'est un lieu de pèlerinage national, oui. Donc il y a un nouveau statut pour Lourdes. Et moi, je dis aux évêques, ne prenons pas Lourdes simplement parce que c'est un lieu pratique, parce que tous les diocèses y vont en pèlerinage.
C'est aussi un lieu de guérison.
Alors, c'est-à-dire, oui, appuyons-nous aussi sur le message de Lourdes. Hein, oui. C'est-à-dire... sur cette jeune fille qui a infiniment respecté par Marie, hein, qui mmh. a reçu un message du ciel, et un message qui est d'abord un message de pénitence, mais un message aussi de miséricorde. Et donc, je crois que là, il peut y avoir, sur le message de Lourdes, du sens, hein, qui est un lieu de mémoire, sans que la question des abus sexuels, si vous voulez, viennent assombrir un pèlerinage qui est un moment de joie et qui ne peut pas tourner seulement autour des abus.
Mais les personnes qui viendront en pèlerinage pourront s'y recueillir et faire ce travail de mémoire.
Voilà, et y prier. Et donc chacun ensuite fera comme il pourra. Ensuite, il y aura peut-être besoin dans certains diocèses d'un lieu local de mémoire, hein, comme ça s'est déjà fait à Luçon, dans le diocèse de Luçon, où il y a eu des cas... pas un grand nombre d'abus, mais enfin un nombre certain quand même d'abus. Et donc, il y a eu besoin dans la communauté
chaque évêque de
Luçon de faire de poser une plaque, hein, et de faire un lieu de prière. Bon, voilà. Et ça, donc, on avance un peu avec... et ça, ça a été vu justement avec les personnes victimes, avec les familles qui ont été touchées par tout cela.
Qui sont réconfortées par ce genre de lieu. Alors évidemment, on imagine qu'il n'y aura pas le nom des victimes, non. Mais ça
mais,
réconforte.
Mais je pense qu'en tout cas, il y a des victimes qui ont besoin qu'on dise clairement qu'on n'oublie pas.
Ouais.
Alors, donc là encore, d'une victime à l'autre... le regard là-dessus sera... Vous avez aussi des personnes victimes qui sont très en colère et qui, quoi qu'on fasse, de toute façon, diront que ça ne va pas, quoi, parce que la douleur est trop profonde et qu'elles se sont senties tellement trahies que, voilà, il y a quelque chose que rien ne pourra réparer. Voilà, ça, il faut qu'on l'accepte aussi.
Parmi les décisions, il y a aussi l'accompagnement des prêtres coupables. Ça, c'est vraiment un point important de vos décisions, c'est que ils sont coupables, ils ont commis un acte très grave, irréparable, mais vous les accompagnez.
Ben oui, parce que voilà, ils sont là, hein, et puis il y en a qui regrettent profondément, hein, il y en a qui sont dans le déni, et puis il y en a qui regrettent profondément. Bon. Mais ce sont aussi des personnes à accompagner.
Comment d'abord, on peut accompagner ces prêtres?
C'est-à-dire que d'abord, il y a qu'est-ce qu'elles deviennent, hein. Il n'y a plus de ministère. Bon, alors ça dépend aussi, hein, de ce qui a été commis, hein. Mais en général, il n'y a pas de ministère possible, hein. Bon, et donc, quand un prêtre n'a plus de ministère, bon, ça dépend de l'âge aussi, bon, ça dépend de beaucoup de choses, mais enfin, en tout cas...
Et la justice peut intervenir, là ?
Ah ben, il y a des prêtres qui ont fait de la prison.
Ouais.
Bon, mais par exemple, un prêtre qui sort de prison au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, c'est aussi à l'Église de savoir ce qui... Même si jamais il ne peut plus exercer son ministère de prêtre, il faut quand même faire quelque chose.
Il faut bien qu'il vive quelque part.
Il faut bien qu'il vive quelque part. Et puis ensuite, il y a un accompagnement aussi de la personne, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans son âme, qu'est-ce qui se passe encore.
Qui peut faire ce travail d'accompagnement des prêtres?
Il y a différents niveaux. Hein. Il y a un niveau spirituel où il peut y avoir un père spirituel, il peut y avoir une communauté religieuse. Bon. Il y a un niveau psychologique, où c'est un psychiatre, c'est un psychologue, un psychanalyste qui peut faire quelque chose. Ensuite, l'évêque, il est là comme une autorité. Hein, bon. Il y a les confrères. Mm-hmm. Il y a, bon. Donc, Parfois, on peut faire des sessions, quoi, aller dans les maisons qui... Voilà, et puis, est-ce que ça dépend ? Est-ce que le prêtre se rend compte de ce qu'il a fait ou est-ce qu'il ne s'en rend pas compte ? Donc, oui, il y a une vraie réflexion. Si vous voulez, l'urgence, quand on se rend compte qu'il y a eu un abus, bon, c'est de dire, là, qu'est-ce qui se passe pour le prêtre ? Il ne va pas forcément en prison et parfois, il y a des... Donc, il y a des crimes qui sont prescrits. Hein, bon. Ensuite, la personne, voilà, où est-ce qu'elle va aller hein, le jour où on découvre et puis, est-ce qu'il faut qu'elle arrête son ministère ? Mais, si vous voulez, une personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas reconnue coupable. Donc, il faut aussi préserver hein,
la présomption d'innocence.
La présomption d'innocence et la réputation du prêtre. Bon, voilà. Donc ça, c'est un chantier. Je dois dire que pour l'instant, on a plutôt un peu fait dans l'urgence. Mais l'accompagnement au long cours, eh bien...
Ça, c'est un des chantiers qui devra être fait et mis en place rapidement.
Oui, et puis c'est un des derniers chantiers. Je dois dire que là, on a pris, vous voyez, par toutes ces questions, ça a été un des derniers chantiers. Bon, et puis il y a tous les prêtres qui sont morts aussi, hein. Lesquels on ne peut plus rien faire, voilà. Sauf prier pour eux.
Si ce n'est prier, oui. Alors évidemment, il y a aussi la prière qui est importante. Et vous proposez que le troisième vendredi de carême soit dorénavant consacré à la prière pour ces abus, pour les victimes, pour les coupables et pour que l'Église avance sur cette question-là, sur ces affaires-là. Ça, c'est une nouveauté. Donc, ce sera à partir du carême 2022, où il y aura une journée nationale de prière, le troisième vendredi de carême.
Oui, surtout pour les personnes victimes.
Pour les personnes victimes.
Voilà. Ça, c'est le pape qui a demandé ça.
Voilà.
Donc, là, ce n'est pas venu de nous. C'est le pape qui a demandé que dans chaque pays, dans chaque Église, il y ait une journée. Et le troisième vendredi de carême, oui, parce que, voilà... Pendant le temps du carême, il y a les étapes et ça nous a paru le jour le plus disponible, si je puis dire, pendant le carême, un vendredi, de prier pour les personnes victimes. Là, il y a aussi proposé un secours financier hein, pour aider les victimes à faire face aux frais de leur relèvement, hein, parce que.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour accompagner des soins psychologiques,
oui,
par exemple.
Oui, il y a des personnes qui ont dû dépenser de l'argent pour se faire accompagner par un médecin, par un psychologue. Voilà, et donc, il nous a semblé juste qu'on contribue à ces frais si les victimes le demandaient.
D'accord, donc il ne s'agit pas de donner systématiquement une enveloppe. En fait, c'est la même question que pour le pardon. Il ne s'agit pas de donner une enveloppe à chaque victime en disant, voilà, on répare en donnant une certaine somme.
Non, pas du tout. Non.
C'est, si la victime a eu besoin de dépenser de l'argent pour aller mieux, pour s'en sortir, pour se relever, alors là, l'Église peut intervenir.
Et là, ça serait non pas l'évêque, vous voyez, qui serait... on pourrait passer par l'évêque pour le demander, mais ça serait là aussi une sorte d'organisme indépendant.
D'accord.
Qui récolterait des fonds pour cela. Donc, ce n'est pas du tout les diocèses avec le denier du culte qui abonderaient, vous voyez, ce fonds, hein, parce que c'est vraiment très différent. Hein. Le denier du culte, il est donné pour la vie de l'Église, il n'est pas donné pour des frais, vous voyez, de relèvement hein, pour des victimes d'abus sexuels. Donc, on tient vraiment à distinguer les deux choses, mais il y aurait un organisme au niveau national qui récolterait des fonds pour qu'on puisse aider des victimes qui le demanderaient à être aidées dans les dépenses occasionnées par
ce traumatisme.
Par ce traumatisme, exactement.
Toutes ces décisions qu'on vient d'énumérer, Mgr Brouvet, elles vont être mises en place dans quel délai ?
Oh bah, écoutez, ça a été voté, donc ça a été décidé. Donc maintenant, on va, je pense qu'à la prochaine assemblée de cet automne, par exemple, décider si c'est bien à Lourdes qu'on fait un lieu national. Bon, je pense que là, on se mettra d'accord à ce moment-là. Vous voyez, il y a des petites commissions qui travaillent, donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien d'ici l'automne, mais ça veut dire que, par exemple, vous voyez, pour ce fonds, pour la faisabilité, bah, ça veut dire qu'il faut, il faut créer quelque chose pour la faisabilité de ce fonds de soutien financier aux personnes, bah, il faut le mettre en œuvre, quoi. Donc, faut trouver quelqu'un qui va s'en occuper, faut commencer à trouver des fonds, etc. Donc, ça prend un petit peu de temps. Je pense que d'ici l'automne, ça sera beaucoup plus clair. Cela dit, continuer à écouter et accompagner les personnes victimes, ça, ça dépend pas d'autre chose que de nous maintenant. Hein. Ou bien la formation de ceux qui sont avec les jeunes.
Alors, dans notre diocèse de Tarbes-Lourdes, ça existe déjà.
Oui, ça existe déjà. Mais alors, par exemple, vous voyez, le 3 juin prochain, nous ferons une journée avec les prêtres et puis tous les animateurs de jeunes, les catéchistes, tous ceux qu'ils veulent. On fera une après-midi de rencontre pour de rencontre alors avec le procureur de la République, avec une association aussi d'aide aux victimes. Avec laquelle on a pris contact dans les Hautes-Pyrénées, avec aussi la cellule d'écoute, avec moi-même. Donc c'est des journées comme ça, hein, c'est des après-midi ou des matinées.
Travaille vraiment concrètement en se disant qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prévenir, quoi.
Voilà, et puis pour sensibiliser, ouais. pour écouter, pour mettre des mots. Il y a tout ça, hein, dans des après-midi de travail. Ça n'est pas simplement des choses verticales où on dit ce qu'il faut faire. C'est aussi une occasion aussi pour les gens de poser des questions. Mmh. C'est une occasion aussi de mieux comprendre ce que fait l'Église. Hein. Par exemple, cette petite interview là, à la radio, c'est aussi une occasion, hein, pour les auditeurs de comprendre un peu ce qui se passe dans l'Église sur ces sujets.
Alors justement, les auditeurs, ils sont concernés aussi parce que dans votre lettre, vous terminez par un appel que vous lancez, que tous les évêques lancent aux catholiques, pour qu'ils soient aussi acteurs de ce combat, j'allais dire, pour que l'Église soit une maison sûre. Quel est cet appel ? Qu'est-ce que chaque catholique peut faire pour aider l'Église, pour aider les victimes. Qu'est-ce que les auditeurs là, qui vous écoutent aujourd'hui peuvent faire pour vous aider ?
C'est-à-dire que ce qu'il y a à faire, ça dépend aussi de son niveau d'engagement, hein, dans l'Église, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus du tout d'engagement, il y a des gens qui font du catéchisme. Bon, l'idée, vous voyez, principale, c'est de dire on respecte les enfants, on respecte les jeunes, on respecte les personnes fragiles, et ça, chacun à sa manière dans ses différents engagements. Je crois aussi, c'est dire dans les familles, hein, dans les clubs sportifs, dans les écoles, partout où il y a des jeunes, ça n'est pas une question qu'on a affrontée seulement dans l'Église, mais c'est une question, on le voit bien à travers les informations, parfois les sujets là, qui arrivent, les affaires qui arrivent, on se rend bien compte que on ne peut pas toucher au corps de l'autre sans qu'on touche à son cœur. Moi, ça a toujours été un slogan, hein, pour moi, c'est quand tu touches au corps, tu touches au cœur. Tu ne peux pas toucher au corps de l'autre sans, en fait, le toucher profondément.
Le blesser intérieurement.
Le blesser, pas forcément, parce que si jamais je prends la main d'une personne malade, en fin de vie, par exemple, vous voyez, il se passe quelque chose,
ouais,
qui ne le blesse pas, qui peut être source d'un grand réconfort. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma main ? Voilà. Et donc, il y a une manière de s'approcher de l'autre qui n'est jamais neutre. Et donc, qu'est-ce que je mets comme intention ? Qu'est-ce que je suis en train de toucher aussi profondément en elle ? Alors, ça peut être un grand geste, un très beau geste de tendresse, un beau geste d'encouragement. Mmh. Hein, mais ça peut être aussi un geste qui est très blessant. Et c'est ça la question. C'est la question que, vous voyez, nos gestes ne sont pas du tout anodins. Et donc, c'est là-dessus que les évêques invitent à travailler aussi pour essayer de faire comprendre que tous nous sommes concernés par l'infini respect que nous devons à l'autre.
Nous sommes tous concernés. On conclut, Mgr Brouvet, en indiquant le contact pour joindre la cellule d'écoute. Alors, il y a une adresse mail, parole de victime, victime au pluriel, @catholique65.fr, parole de victime, @catholique65.fr. Il y a aussi un numéro de téléphone, 07 89 78 59 35, 07 89 78 59 35. Voilà les contacts pour joindre la cellule d'écoute.
Contacts qu'on peut retrouver sur le site du diocèse, hein, sur le site internet du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
catholique65.fr. Merci beaucoup, Mgr Brouvet.
Merci à vous et merci aux auditeurs.